Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus pour ce premier jeudi de la BD organisé par la BPI dans le cadre de la BD à tous les étages du Centre Pompidou. On est très heureux de recevoir pour ce premier jeudi de la BD Jean Crémers.
Bonjour, bonjour.
Auteur de Vagues de froid chez Le Lombard et du Grand Large publié chez Glénat. Et pour animer la rencontre ce soir, on reçoit un autre auteur de bande dessinée, David Prudhomme, qui remplace Sonia Bonjour. Deschamps au pied levé, donc on le remercie infiniment pour ça. Et je vous laisse tout de suite la parole et je vous souhaite une excellente soirée.
Merci.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jean.
Bonjour. Mais,
alors on va évidemment parler des deux livres que tu as fait, Vague de froid et Grand Large. Une dernière sortie, c'est ça ?
C'est ça.
Mais bon, avant cela, on va évoquer un peu ton parcours. Tu permets que je te tutoie ?
Bien sûr, mais... ouais.
Puisque bon, dans les jeudis de la BD, on s'intéresse particulièrement au début. Ne lis pas mes notes, s'il te plaît.
Réflexe d'étudiant.
Alors bon, je voudrais savoir quel lecteur et dessinateur est-ce que tu étais enfant et adolescent ? Est-ce que tu te rappelles de ça ?
Oui, oui, je me rappelle de deux, trois titres, hein, Kid Paddle, le petit Spirou, Cédric, mais toujours aux toilettes, quoi. Ça n'allait pas plus loin que ça.
Ouais, tu disais des histoires courtes.
J'avais pas du tout pour vocation de faire de la bande dessinée, moi, par exemple. Quand j'étais jeune, je dessinais comme tout le monde, genre copiais des Pokémon, je faisais des graffitis sur des feuilles de papier, et puis j'étais à l'école en secondaire, donc pour vous, le lycée, je crois, c'est ça ? Quand on a 12 et 18 ans.
Collège-lycée.
Et là, oui, j'ai commencé à dessiner vraiment plus dans l'optique d'en faire quelque chose. Ouais. Mais pas avant, vraiment.
Tu te rappelles ce qui t'a un peu vraiment donné l'impulsion
oui.
de dessiner ?
Oui, mon grand-père.
Des bandes dessinées. Ah, ton grand-père.
Mon grand-père. Les bandes dessinées, c'était mon grand-père. Il avait deux, trois titres. Il avait notamment des BD de Pinelli, hein, évidemment, mon grand-père, qui aimait bien un peu les BD... un peu érotique aussi, évidemment. Mon grand-père était un vicelard.
C'est pour ça que tu es là.
Et c'est pour ça que je suis là. En effet, merci mon grand-père. Merci Fernand. Mais après avoir bossé dans la métallurgie pendant 40 ans, il a commencé à vouloir plus dans sa vie, puisqu'il se cassait le dos à l'usine. Donc il a commencé à sculpter, à peindre, à dessiner. Mais il dessinait déjà depuis qu'il avait 12-13 ans. Hein, l'aquarelle, il m'en a montré récemment, c'était déjà un bon niveau, quoi. Il a toujours fait ça dans l'optique de le faire comme si c'était un truc qui pouvait se vendre. Et quand j'allais dans son atelier, quand on allait le voir tous les dimanches, j'avais envie de ça aussi, moi, d'avoir mon espace à moi, vu que je suis issu d'une grande famille de 5 enfants, maintenant 6. J'avais pas d'espace à moi. On devait tous partager les habits, le lit. Je vous rassure, pas les calbars, mais etc. Mais on se partageait tout, quoi. Même la bouffe, on était vraiment très soudés, et toujours maintenant. Et donc avoir cet espace-là, ça me faisait rêver, moi. Et donc je me suis dit, je vais faire comme lui. Il avait des squelettes d'oiseaux qu'il récupérait pour les étudier en dessin. Il allait loin dans le délire alors qu'il était autodidacte et qu'il n'avait pas de compte à rendre, ni de difficultés financières. Mais voilà, moi je voulais ça. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans la bande dessinée, quand j'ai raté en gros mes études scientifiques en supérieur, par flemme.
Par flemme.
Par flemme, évidemment.
Notons ça. donc le lieu, tu parles de lieu de l'atelier de ton grand-père.
Oui.
Tu parles de squelettes d'oiseaux. Tu peux nous le décrire un peu plus
pour,
Parce que c'est des univers qui marquent longtemps. Moi, j'ai un grand-père électricien, par exemple. Alors, j'ai pas du tout pris l'optique, mais je faisais des villes avec toutes ces bobines.
Ah ouais ?
Ouais, j'adorais jouer avec tout ça. C'était un atelier tout en bois... avec une petite véranda, des années 50, tu vois, tout à la cave, tout miteux, mais j'étais effectivement très bien, et je crois que j'ai un peu reconstitué ça chez moi, c'est-à-dire que je suis envahi de... quand je travaille sur très peu d'espace, et puis autour, c'est rempli de micro-objets qui font un monde, tu vois.
Ouais, exactement pareil. C'est marrant, on a ce besoin dans le dessin d'avoir son univers vraiment physique, en plus du dessin.
Oui.
Enfin, moi, je me rappelle juste de l'atelier, comme il avait une pièce dans le grenier. Il fallait monter à l'étage. Donc déjà, c'était de la moquette qu'on ne fait plus du tout à l'étage. Il y avait une odeur, vu qu'il fumait un peu la pipe. Donc ça sentait bon. Pas le tabac froid, mais une odeur un peu particulière. Mais il tirait la trappe. Et il y avait deux Vélux qui noyaient la pièce de soleil quand il faisait beau. Parce qu'en Belgique, ce n'est pas toujours le cas. et vraiment, c'était... Je sais pas, ça mettait ma vie en pause. Et je ne l'ai pas connu longtemps, cet atelier. J'ai peut-être dû le voir 10 fois dans ma vie, quoi. Parce qu'il habitait dans une petite ville en Belgique qui s'appelle Ougré. Et il habitait là pendant peut-être 5 ans, quand le temps que je grandisse. Puis il est venu habiter à Tilf, dans mon village, pour se rapprocher de ma maman, qui après s'est barrée. Donc ça ne servait à rien. Mais c'était marrant de voir qu'il faisait... Il a toujours été au bout de ses idées. Et cet atelier-là a disparu un peu. À Tilf, il en a un, mais c'est du carrelage, c'est blanc, c'est froid, mais il y a plus de place, quoi, donc il y a moins de charme, évidemment. Mmh. Alors, il a quand même ses squelettes d'oiseaux et de chats, hein, il allait jusque-là. Il a des pièces d'os de chameaux, quoi. Il était dans le désert. C'est un grand-père qui a fait énormément de choses. Il a 90 ans, il fait toujours du vélo tous les dimanches avec son papier journal pour éviter d'avoir un rhume le lendemain. Enfin, Moi, je l'aime d'amour, et c'était vraiment une pièce qui le représentait. À merveille, et je suis un peu déçu d'ailleurs qu'il n'ait pas repeint les murs. Je crois que c'était orange et vert, c'était immonde, mais en même temps c'était beau parce que c'était lui, quoi. Il faisait n'importe quoi avec la déco, et c'était marrant, quoi. C'était imprégné de son odeur aussi. On n'en parle pas assez de ça, mais les souvenirs, c'est beaucoup beaucoup l'odeur plus que le visuel. Mm-hmm. Et vraiment là, c'était le bois chaud.
Donc ce serait ça qui resterait le plus, plus qu'un objet, pratiquement.
Évidemment, beaucoup plus. Et l'atelier dans lequel je travaille maintenant, c'est en bois, donc ça me rappelle ça.
Tu te rappelles la marque du tabac?
Pardon ?
La marque de tabac.
Oui, mais Clark, du coup, fume beaucoup, donc oui, on sent le tabac.
Là, t'as pas quitté ça.
Oui.
Donc oui, tu nous as dit que tu as eu un petit peu une période de flemme qui est terminée au lycée. Mais après le lycée, justement, tu as poursuivi donc un tout petit peu d'études.
Oui,
avant de te décider à plonger dans la bande
exactement.
Dessinée.
Exactement, mais classique des parents, il fait les sciences, il y a du boulot, évidemment.
C'est une raison.
Et, et tous mes frères et sœurs ont des boulots toujours maintenant, d'ailleurs très conventionnels, c'est des GRH, ma sœur était dans la vente, ma copine aussi, enfin tout mon entourage a des boulots un peu plus conventionnels, il n'y a pas de mal à ça, ils aiment bien la routine, ils aiment bien la sécurité financière, donc ils ont un salaire tous les mois, etc. Moi, j'étais toujours extrêmement imprudent par rapport à ça, on verra quoi. Mm-hmm. Et donc je me suis lancé dans la biologie médicale. Et le seul truc que je faisais bien, c'était... Parce que c'était quelque chose qui m'attirait quand même un petit peu. J'aimais bien tout ce qui était biologie.
Bon, moi, pareil.
Je pensais bizarrement... C'est vrai, ben voilà, encore un point commun, hein, nickel. Je pensais naïvement que la biologie, c'était l'étude des animaux, quoi. Ouais. Qu'on allait dans la forêt, aller prendre des photos et puis les étudier, quoi.
Ramener des petits squelettes d'oiseaux.
Ramener des squelettes d'oiseaux et pas de chats, parce qu'on les aime. Mais
ils tuent les oiseaux.
Ils tuent les oiseaux, oui. Mais du coup, on peut avoir leur squelette. C'est intéressant, voilà, la chaîne est bien faite.
Oui.
Mais je me suis arrêté dans ces cours-là, au dessin de schémas au microscope. Donc on observait des peaux de bananes, ça n'avait aucun intérêt à ce niveau-là. Et moi, je dessinais bien
Tu peux faire du Warhol, là, ou
de, ouais, de l'abstrait. Oui. Là, c'est presque du... je ne sais plus comment c'est son nom. Enfin bref, c'est vraiment très, très, très schéma, très, très géométrique comme ça. Et du coup, je me suis retrouvé à faire tous les schémas de chaque élève. Et je grattais 5 balles par dessin pour essayer de faire en faire quelque chose. Mais j'arrive encore à 8h, je partais à 8h15. Quoi. J'avais vraiment un mal-être dans cette école. Et donc un jour, mon père m'a cramé et m'a dit « Tu veux faire quoi de ta vie plus tard ?» Et je lui ai dit que je voulais faire le dessin. Donc il a un peu grincé des dents, c'est normal. C'est pas un truc qu'on a envie d'entendre, j'imagine, de la bouche de ses enfants. Mais bizarrement, ils m'ont pas non plus cassé. Quoi. Ils m'ont dit « Ok, mais tu vas être bon, sinon t'as pas de boulot. » Et ça s'est lancé comme ça. Je suis allé à Saint-Luc parce que c'était dans ma ville, à Liège, où j'allais à l'école.
Et pour continuer à être étudiant, en fait. Aussi.
C'est ça, pour continuer à être étudiant, évidemment, et ne pas avoir de compte à rendre au niveau du forum, etc.
Ouais. T'as fait Saint-Luc, puis après t'es allé à l'Académie Royale des Beaux-Arts.
Exactement.
C'est ça.
Ouais.
Question un peu bateau, peut-être, mais qu'est-ce que tu as pensé avoir trouvé? Pas préféré aussi, hein, c'est vrai, mais plein de choses sans doute, mais avec un peu de recul, parce que t'en es sorti il n'y a pas si longtemps que ça, tu as peu de recul encore sur l'aventure, parce que c'est quand même quelque chose en général quand on rentre aux Beaux-Arts, ou à Saint-Luc, Liège peut-être, c'était plus spécialisé que dessin, bande dessinée, peut-être.
Tout à fait l'inverse, en fait, bizarrement. D'accord. Saint-Luc, il y a de la BD depuis très peu. Avant, c'était vraiment dessin, illustration. Et puis, ils ont fait une option BD il y a quelques années. Je veux dire, les gens avec qui je travaille à l'atelier ont fait Saint-Luc et n'avaient pas l'option bande dessinée. Quoi. Alors là, c'était très... Il y a beaucoup de cours parasites. Beaucoup de cours théoriques. Donc, les sémiologies, par exemple, l'étude des signes et des langues. Enfin, rien à foutre dans le dessin. Je trouve. C'est mon avis, évidemment.
D'accord.
Mais même si j'avais adoré le cours, en plus, c'était très bizarre. Il y avait des cours de philo, il y avait voilà, oui, la philo, oui. Ça va, oui. C'est oui, pour oui. écrire des scénarios, etc. Ça allait, mais on a eu un cours de scénario en troisième année seulement, par
d'accord.
exemple. Des cours de dessin, on les avait pas. On nous apprenait à faire des gaufriers et aller dessiner, quoi. Ce qui était, au final, une très bonne chose, parce que du coup, ça nous force à trouver notre style d'un coup et pas apprendre d'abord les proportions, l'académie, le dessin très fastidieux. On est un peu dans une constante créativité parce qu'on a d'un coup notre patte, quoi.
Narrativité surtout aussi.
Narrativité évidemment, ouais, parce ouais. que le dessin c'est une forme d'écriture bien sûr, ouais. mais voilà, donc Saint-Luc, moi c'était la révélation en tout cas au niveau de l'école, j'y allais plus que des pieds de plomb, tout allait bien.
D'accord.
Il y avait beaucoup plus de liberté hein, à tout niveau évidemment. Et puis j'ai fait entre les deux, j'ai tenté la pub. Pendant 6 mois, je me suis retrouvé à 20 ans à mettre de la peinture sur un pochoir, donc je me suis dit ça suffit, le dessin me manque, et donc je suis reparti à l'académie en master, qui est la seule école qui propose un master à Liège. Et donc je suis parti là-bas, et là je me suis vraiment mis, je me suis dit dernière chance, je fais 2 ans, et après les 2 ans il faut que j'ai un contrat, quoi. Et ça s'est passé comme ça, heureusement, je suis parti en Norvège avec mon frère entre temps, etc., et on a embrayé.
On en parlera. Ouais. Ouais, ouais, ok, d'accord. Mais... Bon, ça se décide pas un contrat forcément, donc tu l'as quand même provoqué.
Oui,
tu
oui,
t'es mis sûr. À travailler la bande dessinée déjà en étant en oui. étant à la, enfin un projet particulier de bande dessinée en
exact.
Étant à l'académie.
C'est ça, c'est un peu. Je me suis dit 2 ans, je n'ai pas envie forcément de me faire des amis, j'en avais déjà, et je voulais absolument travailler, quoi. Donc j'allais à l'école et je mettais mon casque, je parlais à personne et je dessinais, quoi. Vraiment, c'était un peu comme. Enfin, sans arrogance, mais un peu comme du method acting, vraiment les gens ouais. qui se plongent dedans. C'était un peu too much parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvé vraiment très seul.
Tu n'as pas cherché à la porosité avec les autres étudiants.
Non, parce que... J'étais là vraiment parce que l'académie, ça a cette mauvaise réputation en Belgique d'être une mauvaise école où on fait du manga et c'est tout. Ce qui est un peu vrai en vrai. 2 fois en vrai, c'est toujours mieux. Mais. Là, c'est vraiment...
On ne dit pas une fois en Belgique.
On ne dit pas une... Non. Ce mythe, c'est le bruxellois. Une fois, c'était une fois il y a 60 ans.
D'accord.
Non, non.
Excusez-moi.
Là, vraiment, c'était une 2 ans de pur travail et de pur... aussi de chercher ses limites, de jusqu'où on peut aller en tant qu'élève.
Ouais.
Je voulais voir aussi jusqu'où je pouvais aller dans le scénario et le dessin, sans retour des profs, j'allais les voir le moins possible. La deuxième année, je suis allé 10 fois en cours sur l'année, quoi. C'était ridicule. Après, on était en plein Covid, on ne savait pas encore trop comment ça se passait, mais j'allais jamais en cours parce que je bossais chez moi, j'envoyais mes planches à un autre prof que mon prof attitré, qui était plus compétent, je trouve. Et du coup, j'avais vraiment ce ping-pong, il adorait ce que je faisais, du coup j'avais beaucoup de chance, c'est un échange constant, comme
ouais.
un éditeur en fait.
Ouais,
et du coup quand j'ai eu mon contrat, j'ai pas du tout été paumé, ni gêné par cette collaboration, parce qu'un éditeur c'est censé faire son boulot comme ça, en collaborant et pas juste en signant un contrat.
Ouais.
Et donc voilà, c'était vraiment 2 ans qui m'ont permis, c'est là que j'ai le plus appris en tout cas, en autodidacte, quoi.
Ouais, ouais, tu t'es mis en mission, quoi.
C'est
en
ça.
Mode,
ouais. Et j'avais fait un TFE d'une centaine de pages, et je pense qu'à la base ils en demandaient 8, quoi. 8 pages et c'est tout, donc c'était quand même quelque chose d'assez fou, je trouve, pour 2 ans d'études à 700 balles l'année, de faire 8 planches, quoi. C'est un peu ridicule, surtout que ça prépare pas du tout au boulot de BDiste où on fait énormément de planches pour qui voient parfois pas le jour, on fait beaucoup de choses. Moi, en 2 albums en 2 ans, j'ai fait plus de 600 planches, quoi,
oui.
en tout avec la revue dessinée, donc ça m'a pas du tout gêné ces 2 ans-là à l'ACA parce que j'avais fait vraiment un TFE assez consistant, quoi.
C'est ça, t'en as profité,
ouais, j'en ai profité
de ce temps-là un peu à l'abri, entre guillemets.
Exactement.
Pour,
ouais.
pour sentir la longue. Qu'est-ce que c'était que la distance
ouais,
longue
ouais, c'est ça.
De travail de bande dessinée.
Est-ce qu'on peut tenir un personnage sur plus de 20 pages? Est-ce qu'on sait le redessiner dans toutes les positions? C'était vraiment le travail le plus proche de la vraie bande dessinée, en fait, que j'ai
ouais.
fait. Ça m'a vraiment sauvé la vie.
La production, en tout
la
cas.
La production, ouais,
oui.
Ouais.
Bon, je ne veux pas la ramener trop, mais je veux juste raconter en 2 secondes mon expérience à l'école d'Angoulême. Où effectivement, c'est une école spécialisée avec une section bande dessinée, où on peut effectivement passer d'une année sur l'autre en faisant 3 ou 4 pages. Et j'ai, comme toi, eu l'opportunité de commencer un album. Alors à l'époque, c'était du 46 pages, on était tranquille.
À 500 balles la planche.
C'était en francs. Désolé.
En franc. Ah ouais, non. Bah, ça se rapproche du vrai salaire, du coup, donc
ouais,
c'est bien.
Ouais. Mais donc, Tu vois, et j'avais la, moi j'avais ça, justement, cet entraînement régulier en plus de, du travail de recherche un peu fondamental qu'on peut faire quand même à l'école. Mais j'étais curieux de la porosité avec les autres élèves, tu vois.
Ouais, ouais.
Donc après, c'est des questions d'affinité, ça passe parfois. Il y a des promos avec et des promos sans. Ouais,
exactement, il y a des gens qui s'entendent bien, d'autres absolument pas.
Tu n'en vois plus personne de là-bas ?
L'académie, si, quand même, deux, trois personnes, mais c'est des gens que je croise uniquement. Mes vrais amis s'en fait à Saint-Luc, quoi, quand on était plus jeunes et qu'on avait vraiment envie. Et bizarrement, c'est des amis qui étaient plus âgés et qui revenaient faire un cursus à 26, 27 ans. Moi, j'en avais 19 à ce moment-là, peut-être 20, quoi. Je suis entré en 2015, je suis parti en 2018, donc ça remonte déjà, l'air de rien, Saint-Luc. Et c'est pas les profs que je vois le plus souvent, alors que c'est les gens qui prônent vraiment l'accompagnement après, dans le travail, etc. Non, l'académie est beaucoup plus fière de ses élèves que Saint-Luc, j'ai l'impression.
Bon, allez, on avance, parce que je crois qu'il faut regarder là. Donc, tu as ce projet qui est Vague de froid.
Exact.
Pour l'instant, il est pas encore. Enfin, il est en cours. Il a ce titre déjà de travail.
Quand je l'ai écrit, il avait le nom Maillot ou Andalouse. C'est pas une blague. J'étais super content de ce titre. J'étais hyper déçu qu'il ne soit pas passé parce que, je cite, les Français ne savent pas ce que c'est de l'Andalouse. C'est ce que mon éditeur m'a dit.
Ouais.
Alors, est-ce vrai? Je ne sais pas.
Qu'est-ce que vous en dites?
Ouais,
on sait pas,
j'imagine que vous savez ce que c'est quand même. Donc j'ai trouvé ça débile comme argument, mais il m'a quand même spécifié que, je cite, dans les campagnes françaises, on ne sait pas ce que c'est. Donc j'ai rigolé, et puis j'ai dit ok, je me plie, c'est le premier contrat, donc je me pliais vraiment à tout. C'est passé après la pluie, puis après la neige, et puis après j'ai trouvé Vague de froid, en faisant une liste de titres, parce que je ne savais pas quoi mettre en fait. Et j'avais une amie j'ai toujours mon amie qui s'appelle Alix Garin, qui a fait Ne m'oublie pas, et qui maintenant va sortir son deuxième chef-d'œuvre. Ça va être un chef-d'œuvre, je l'ai lu, sachez-le. Et vraiment, là, elle m'a dit « Mais pourquoi t'essaierais pas briser la glace ?» Et c'est venu de là.
D'accord.
Puis j'aime bien quand le titre est dans l'album aussi, dit littéralement dans l'album. Mm-hmm. Le grand large, Vague de froid, ils le disent, et le prochain, ils le diront aussi.
Oui.
C'est
d'accord.
Voulu.
D'accord.
Voilà.
Avec des allusions à la vague, à l'eau.
Oui, oui, mais l'eau, j'ai un problème avec ça, je ne sais pas pourquoi. Je ne savais pas avant de faire la BD que j'avais un tel rapport à l'eau.
Ouais. Ouais.
J'aime pas du tout l'eau nager dedans, mais j'aime bien la voir et l'effet mystérieux que ça apporte. En tout cas, rassurant aussi. Un point d'eau, c'est toujours bien.
Ça peut servir dans le futur. Ça servira.
Ouais.
donc, on revient sur le Vague de froid. Moi, j'aimerais savoir comment t'es venu l'idée de faire le voyage avec ton frère. Parce que ça raconte, en fait, cette histoire. Tu veux le développer peut-être toi-même, mais enfin, bon, ça part, en tout cas, d'une source qui est réelle, qui est ces voyages que tu as fait avec ton frère en Norvège. Pour marcher dans ses traces et peut-être se rapprocher de lui. Enfin,
ouais, exactement.
Voilà. Donc tu es parti là-dessus à l'école tout de suite avec cette idée, je veux raconter ça, je veux raconter l'histoire avec mon frère. Ou alors tu as tâtonné un peu quand même dans ces deux ans en te disant, qu'est-ce que je fais? Parce que deux ans, c'est à la fois long et court pour faire
c'est très court,
300 pages.
Parce que je les ai fait surtout sur 6 mois. Avant, c'était des petits travaux qu'il fallait faire.
On l'applaudit.
Donc, non, mais c'était flippant parce que j'avais déjà commencé. Mais en gros, quand ils m'ont dit fais un TFE, j'étais revenu de Norvège l'année d'avant. Donc j'ai fait ce voyage-là avec mon frère en 2018.
D'accord, c'était tout frais.
Donc c'était tout frais. Ouais. Mais en arrivant en deuxième année, j'avais une autre idée. Je me suis dit non, j'ai pas envie de faire un truc comme en BD. J'avais cette idée débile de me dire que quand c'était un truc vécu, c'était plus facile à écrire. Et j'avais pas envie de ça. Et du coup, j'ai commencé à écrire un truc sur une dame qui va nettoyer la maison d'une riche châtelier. Et ça se passait très mal. J'avais pas l'envie du tout. Et juste après, ils m'ont dit, pourquoi t'écris pas sur ton voyage en Norvège? T'en parles tout le temps. Je vois sur... j'en parlais à mon autre prof et il a entendu. Et du coup, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Mais ça a commencé comme ça. D'accord. Mais il m'avait déjà parlé du TFE à venir. Donc j'avais déjà une longueur d'avance. J'ai pas fait 97 planches littéralement en 6 mois, mais plutôt en un an, quoi.
Donc tu te dis, c'est ça que je veux raconter.
Oui, une autofiction. Ouais.
Et comment tu rencontres ton éditeur, alors?
Un mail, Alix Garin, qui me dit qu'il bossait déjà pour Le Lombard.
D'accord.
Qui me dit, envoie un mail à Mathias. Et moi, j'avais pour but de l'envoyer sur la boîte commune de la maison d'édition, mais évidemment, ça aurait pris 1000 ans, parce qu'ils répondent une fois l'an, et ils reçoivent 150 manuscrits par semaine, je pense, de gens qui pensent qui dessinent bien parce que maman ou mamie leur a dit, ou des gens qui dessinent très bien, mais qui n'ont pas forcément la patte pour... comment dire, présenter leur
oui,
album.
Oui, ça compte.
Et donc j'ai été très épaulé par des amis qui m'ont montré des exemples de dossiers d'éditeurs à monter. Je l'ai fait, j'ai envoyé, j'ai pas eu de réponse la première fois. parce que le dessin était très laid.
J'ai remercié un truc, tes amis.
J'ai remercié mes amis en me disant bon, bande de cons, rien ne s'est passé. Et puis juste après, j'ai réenvoyé le truc en me disant voilà, j'ai rebossé le dessin. J'aimerais savoir si ça vous intéresse, quoi. Et j'ai eu une proposition chiffrée d'un coup. Et donc là, t'as 22 ans peut-être, tu reçois une proposition chiffrée, tu te dis yes. Et puis après, quand tu dois facturer, tu te dis mais attends, il n'y a pas beaucoup du tout pour le temps que je mets. Et donc j'ai travaillé sans facturer parce que j'avais besoin d'autre chose avant. Donc je cherchais du boulot sur le côté pendant ce temps-là. Et puis après, est arrivé Glénat avec ses grands sabots, tu bossais pour nous, et je suis sauté sur l'occasion, donc j'ai fait les deux albums en même temps.
D'accord, donc tu as abandonné le truc, les à côté que tu cherchais.
Oui, c'est ça, j'ai vraiment stoppé
la recherche. La côté, c'est Glénat, on va dire.
Non, la côté, c'était vraiment un truc pour Wahoo, des boîtes de storyboard, j'ai voulu bosser là-dedans. Ouais. J'ai toujours bien aimé le cinéma, on en reparlera, j'imagine. Mais Glénat est venu me trouver en me disant on a vu ce que tu as fait pour Quai des Bulles, est-ce que tu veux bosser pour nous? Et j'ai dit oui. J'ai écrit un scénario en très peu de temps. Ça m'a pris peut-être une semaine de l'écrire. D'ailleurs, ça se sent un peu parce que c'est très one shot, quoi. Ça se lit d'une traite, puis on en parle plus. C'est ça que j'aimais bien dans l'idée. Et je faisais deux semaines un, deux semaines l'autre, quoi. Vraiment. Donc je faisais un dessin fort différent pour le grand large, pour ça aussi, parce que Vague de froid m'épuisait. Donc j'avais besoin d'un dessin beaucoup plus libérateur pour le deuxième album. Et énormément de gens me disent qu'ils ont préféré l'aspect graphique du deuxième, mais l'histoire du premier. Et donc ils se complètent. Donc c'est tout bénef, quoi. Achetez les deux, merci.
C'est marrant, deux semaines.
Oui, je faisais par deux semaines. Une semaine, c'est pas assez
pour
rentrer.
La garde alternée,
dedans.
Quoi.
Ouais. Ah, le petit Maxime et le petit Julien, juste à côté.
Ouais. Étonnant. Donc tu fais un découpage immédiatement dessiné ou bien tu... Enfin, l'histoire, tu dis j'ai fait un scénario rapide.
Oui, j'écris toujours. Je préfère écrire que dessiner.
Et après,
toujours.
Tu pars. Ouais.
Ouais. Je préfère l'écriture au dessin. Le dessin est trop fastidieux. Si je pouvais ne pas dessiner, je ne le ferais pas. Mmh. Parce que j'ai vraiment envie de mettre ma vision des choses sur mon texte. Et du coup, c'est très égoïste, hein, comme process, je trouve, une BD. C'est vraiment un truc. J'écris quelque chose et je ne veux pas le voir différemment que comment je l'ai en tête pendant que je l'écris. Et donc, du coup, je le dessine et je traduis juste mon écriture. Et donc, le dessin, pour moi, c'est juste. Une deuxième écriture, c'est refaire le travail, et puis le refaire avec l'ancrage, et puis le refaire avec la couleur. Donc c'est très fastidieux pour moi le dessin. Je me force à avoir un horaire vraiment de bureau, parce que sinon je ne m'arrêterai jamais pour l'avoir fini le plus tôt possible. C'est vraiment un truc qui me fatigue.
D'accord,
j'adore écrire, j'aimerais bien devenir scénariste plus tard,
mais
je
sens la graine de
toujours vraiment dessiner, j'aime bien ça, mais pas dans la bande dessinée, c'est vraiment un truc qui me fatigue.
Qui est fastidieux.
J'en ferai au moins 5 puisque j'ai 5 frères et sœurs et qu'ils sont chacun dédiés à quelque chose. Mais voilà.
Tu veux
ma retraite anticipée.
Creuser ta fratrie.
Ouais.
C'est ça.
Ouais, je veux creuser ma fratrie. C'est super intéressant. Les liens familiaux, c'est très bizarre.
Oui, bien sûr.
J'ai envie d'en parler.
Bien sûr. Eh bien. Tu nous as résumé un peu le passage et le moment incroyable de quand même. De convergence tout d'un coup de ces deux albums, alors que tu vois, c'est quand même phénoménal. Hein, non, mais c'est vrai.
Merci.
Donc, quand tu pars sur cette bande dessinée grand large, là, tu t'inspires aussi d'un membre de ta fratrie ?
Évidemment, bien sûr. C'est ma sœur aînée ici. Elle a quitté la maison, je ne l'ai pas vu venir. Elle avait 25, 26 ans. Je pense qu'elle s'entendait très mal avec ma belle-mère. Enfin, j'en suis même très sûr. Et ça arrive à beaucoup de gens, je pense. Hein. Malheureusement, les belles-mères ont mauvaise réputation, mais parfois c'est vrai. Et donc, elle a été un peu mise à la porte sans trop l'être. C'était très bizarre. Et donc, j'ai voulu dédier cette histoire parce que c'est la première à avoir dû affronter ça, ce passage à la vie adulte et quitter la maison vraiment d'un coup et trouver sa place, ce qu'elle n'a jamais vraiment fait. Donc c'est pour ça qu'Agathe lui ressemble très fort dans l'histoire.
Oui.
Le personnage d'Agathe, qui est la vieille dame, qui n'a plus trop toute sa tête, parce que Lise, et ma grande sœur Lise, est comme ça. Elle a les trois côtés des personnages, en fait. Elle a un côté un peu muet à l'écoute, elle peut vraiment fort écouter quelqu'un et de bons conseils. Un côté très impulsif, comme Léonie, et un côté de mère de substitution, comme Agathe. Et donc j'ai voulu faire les trois qui la représentent. Et son histoire à elle, comme moi je l'ai vécu, en fait, simplement.
Tu l'as éclaté sur trois personnages.
C'est ça, ouais.
Parce que l'histoire, c'est celle de Léonie, hein, contrainte par d'embarquer sur une barque de fortune et de voguer vers le large, mais sans savoir vraiment pourquoi.
C'est ça, exactement. C'est ça. Parce qu'il est temps d'y aller, c'est comme
ça. Elle ne comprend pas, elle n'accepte pas non plus. Hein.
Oui, elle n'accepte pas ça. Ce qui n'a pas été mon cas, hein, moi, je vous rassure, j'ai pas mis là-dessus, c'est pas.
Oui, mais si c'est ta
c'était ma sœur, mais c'est comme ça que moi je l'ai
tu
vu.
Tu l'as perçu.
Ouais, ouais. Et elle m'en a parlé. D'ailleurs, quand elle l'a reçu, elle s'est mise à pleurer pendant un quart d'heure parce que la couverture parlait d'elle-même, je pense. Mm. Et elle était touchée par ça.
Oui.
Ça m'a fait plaisir d'ailleurs.
Juste une parenthèse pour revenir sur Vague de froid. Quand tu commences et que tu signes, est-ce que ton frère est au courant que c'est...
Oui. Il savait que je faisais un bouquin sur ça parce que je lui avais toujours dit pendant le voyage. En fait, Martin travaillait, il était ambulancier comme dans l'histoire, et moi j'étais étudiant, donc j'ai rien payé. Ce qui a coûté très cher à Martin, puisque ouais. la Norvège, le Nord, est très cher. C'est 11,50€ la bière, hein, donc pour ceux qui aiment bien boire, n'allez
c'est
pas là-bas.
C'est comme à Venise.
C'est honteux. En plus, c'est de la pisse d'âne, donc il ne faut pas boire ça. Mais il avait besoin de me faire ce voyage parce que c'était prévu pour lui tout seul et je l'accompagnais. Quoi. Il m'a dit, s'il y a une personne qui vient avec moi, c'est toi ou personne d'autre. Mm-hmm. Et donc moi, j'avais servi un peu de pied de biche à sa grosse carapace sur le derrière laquelle il se cachait pendant ces années-là. Mais je ne lui avais pas montré l'avancée de la BD. Il savait que je travaillais dessus. Mais je suis arrivé un jour avec la BD finie et une dédicace. Et là, j'ai senti vaciller. Quoi. Il était un peu... Ce qui m'a fait énormément de bien, parce que mon frère est quelqu'un de très instable émotionnellement parlant. Je ne savais pas. On l'a découvert avec cet album-là. En fait, il a commencé à force émanciper. Maintenant, il vit en Suède. Donc, je n'ai pas tapé trop mal dans l'histoire. Donc, ça va, je suis content. Mais et toujours dans la mythologie nordique, il prie quand il y a du tonnerre. Voilà, il est dedans. Quoi. Mais moi, c'était un truc qui me touchait beaucoup parce que c'était si spécial et il avait tellement envie de s'émanciper de cette grande famille. Un peu comme moi avec l'atelier, en fait, comme on en parlait. On est
fort les uns après les autres.
Ouais, ouais. On en ressemble très fort, Martin et moi. Donc il y a Lise, Martin, François, moi et puis Alice. Martin et moi, on est très très proches, alors qu'il y a 4 ans d'écart. Et les 3 autres, on se ressemble beaucoup plus. Et donc c'était évident que c'était la première BD pour lui, quoi. Mm-hmm. Vraiment.
Et les autres doivent commencer à trembler.
Et moi, surtout.
Si tu montres à la fin...
Moi, parce que je me dis, qu'est-ce que je raconte sur la dernière, nom du Dieu, je ne sais pas. Mais après, aussi,
la dernière
il faudra trouver.
Mois,
la dernière qui. Non, non, ma petite sœur, elle a maintenant elle a 8 ans, mais Alice, elle a. Mon autre petite sœur, elle a 26 ans maintenant. Mm-hmm. Et il faut que je trouve quelque chose à dire aussi. Mm-hmm. Donc c'est un défi aussi à chaque fois, à chaque album, et c'est ça qui est fatigant. Je pense que je n'ai pas encore fait d'album pour moi, et juste que pour moi, pour le plaisir d'en faire. Le troisième, ce serait un peu le
tu
cas.
Tu dois d'abord passer par.
Et je dois d'abord passer par ça. Par
cet héritage familial aussi, en fait. C'est ça, on peut porter, on peut dire.
Mmh, oui, évidemment.
Tu veux le déposer.
Oui, je vais les inscrire dans le temps. Hein.
Et à chaque fois, tu dois trouver aussi un univers, une ambiance, un décor
qui leur ressemble. Ouais. Ouais, c'est compliqué.
Ouais, c'est compliqué.
Mais c'est chouette.
Et un des éléments qui m'a frappé aussi dans le grand large, c'est que très vite, dès qu'elle prend le large dans sa barque, petite barque fragile. Elle est dépassée, doublée, heurtée, même agressée par des jeunes, d'autres jeunes comme elle, dont on devine qu'ils vont aussi vers le grand large, mais on ignore leur destination. Mais tout de suite, tu marques les différences sociales.
Ouais.
En réalité, parce qu'il y en a qui la dépassent en yacht, il y en a qui la dépassent en hors-bord, d'autres qui ont des paddles, mais enfin des petites barques comme elle.
Ouais.
Et donc, tout de suite, tu marques ça. Donc, c'est aussi pour évoquer, j'imagine, une fois qu'on est lâché dans le grand bain, cette violence sociale qui est.
Oui, ouais, évidemment. On la voit que quand on quitte le cocon familial, quand on va à l'école, on l'aperçoit, mais on l'aperçoit dans le cadre de l'école.
C'est ça. Tu veux dire qu'après, on part pas avec les mêmes armes.
Après, évidemment, bien sûr que non. Ici, moi, on n'était pas pauvres, on a manqué de rien, mais on était 5 gosses. Donc il fallait quand même faire des concessions, des compromis et partager. Et donc, c'était la façon la plus évidente de le montrer. C'était une barque, certes, mais une barque quand même, une jolie barque. Quoi. J'avais envie de faire ça dans ce sens-là. Et le yacht, c'est imposé comme tous les gens, comme ça, les gosses de riches qui sont maintenant riches aussi, évidemment. J'ai beaucoup d'amis que je vois plus trop, qui je vois très bien sur les réseaux sociaux, ils ont continué à entretenir ce style de vie et ça leur va.
Mm-hmm.
Donc c'était une évidence. Mais c'était aussi pour rendre l'histoire plus intéressante, parce que 250 pages sur l'eau, on s'ennuie vite. Et j'avais peur d'ennuyer le lecteur avec vraiment les mêmes plans, c'est toujours le même décor. C'est la mer, on ne sait pas où c'est, dans quel pays. J'avais pas envie de mettre une ethnie, un peuple en avant, quoi que ce soit. Vraiment, c'est tout le monde pareil. Et par fainéantise aussi, hein, parce que dessiner l'eau, c'est une ligne et puis ça dégage. Donc c'était bien. Enfin, je pensais. Après les tempêtes, c'est compliqué, les vagues. Mais voilà, donc il fallait nourrir l'histoire de plein de petits trucs comme ça, de sujets, sans paraître écœurant ou moralisateur. C'était le défi de l'histoire.
C'est ça.
Cache cette note.
Comme à l'école, oui. Cette histoire, moi, tu dis sur l'eau, ça peut être quand même assez... j'ai pensé un peu, curieusement, parce qu'on est quand même assez loin, mais tout d'un coup, j'ai pensé à One Piece. Par le côté... Pas la joie qu'on voit dans Luffy, ouais. Tu vois, l'espèce, ouais, mais ouais. Il y a le volontarisme.
Ouais.
Il faut avancer, tu le dis sans arrêt. Il faut avancer quoi qu'il arrive. Et c'est pas dans avec le positivisme de Luffy.
Non,
c'est plus dur,
le positivisme de manga, c'est ouais. Dans tous les shonen, ce truc-là. Ouais, ouais. Non, moi ici, c'était vraiment juste mon expérience par rapport à la bande dessinée. On a commencé un album, il faut y aller, quoi. Ouais, j'ai pris ça comme ça, et en fait, ça va avec...
C'est un mantra, alors.
C'est ça. On n'a plus le choix, on a commencé à facturer, ouais. Je vais pas vous rendre l'argent pour me dire j'arrête. Ça va pas, puis... Il y a l'objet qu'on a envie de voir fini, etc. Et c'est un peu, j'ai identifié tout ça au simple fait de devoir poser le pied à terre. Sinon, ben, on reste nulle part et on ne sait pas avancer. C'est horrible. J'ai vu mon frère Martin faire ça. C'est pour ça que Vague de Froid est sorti. Ouais. Et c'était terrible parce qu'il en souffre toujours maintenant. Alors, ça va mieux, hein, mais ça se voit qu'il a 32 ans. Il me dit, je suis nulle part, quoi. Ouais. Et c'est un texte qui est mot pour mot dans Vague de Froid. Ça m'avait marqué, ce truc-là. Ouais. Moi, je ne voulais pas subir ça. Je me dis, tout le monde m'a dit que la BD, c'était compliqué. OK. Mais je veux pouvoir m'en sortir aussi, même mes frères et sœurs qui font un boulot qui leur paye 3000 euros par mois, quoi.
Oui, oui.
Ou 2000, ou que ce soit. Ce qu'on n'a pas, évidemment, nous, les BDistes.
Mais à l'arrivée, il y a une petite île qui est un livre.
Ouais. Et non, mais ferme. Ça, c'est fou. Ouais. On voyage, on voit des gens et c'est la rançon de l'action.
C'est une grande métaphore aussi. Donc c'est ta sœur, mais c'est quand même une grande métaphore de l'avancée, de work in progress. Qu'est-ce que c'est qu'une bande dessinée Qu'est-ce que c'est que travailler une bande dessinée sans savoir forcément où on va, même si tu dis que tu l'as écrit vite, mais. Après,
oui, mais l'écriture est pour moi est beaucoup plus simple.
T'as inventé des choses au
Ah oui, oui. Quand on dessine, on rajoute des choses. Oui, surtout ici, avec mon éditeur, on a fait un bon boulot de toute la partie. Il y a une partie qui se passe pas vraiment sur l'eau. Non. Pour ceux qui l'ont pas lu, sans spoil, c'est sur une île flottante. Et ça, c'était son idée.
C'est ça.
Il m'a dit, il faut casser la vague pour rester dessus. Mais
le paquebot,
c'est ça. Ouais. Et en même temps, j'avais vu plein de trucs sur les crimes en haute mer. J'étais là, mais je vais faire un truc là-dessus, mais sans, encore une fois. Être moralisateur et être cliché, enfin c'était un peu cliché, mais parce que j'avais pas le choix, enfin, vu que c'est que 40 pages, qui se passe entièrement sur une petite île avec peut-être une centaine de personnes, il faut absolument que ça aille vite et que ce soit un truc de passage. Mm. C'est un peu, ça représentait en fait le moment dans la vie où on pense qu'on va pouvoir se poser.
Mais c'est pas là.
Et c'est pas du tout là en fait. Et ça m'est arrivé aussi, moi, quand je suis allé vivre chez mes grands-parents, j'avais un pied à moitié dedans, quoi. J'étais toujours un pied dans la barque, un pied sur le seuil.
Ah, moi aussi j'ai vécu chez mes grands-parents.
Ouais. J'ai adoré, hein, mais j'étais pas dedans. Ouais. J'étais pas très heureux là-bas, quoi. Et après c'est parti. En plus on a été inondés à Liège, on a eu 1,80 m dans la province de Liège, ce qui a donné naissance à cet album-là aussi, parce que je venais d'être inondé quand Glenna m'a contacté.
D'accord.
Et je me suis dit, je vais me servir de cette eau pour l'évacuer, quoi. Littéralement. Mmh. Et ça m'a un peu influencé là-dessus. Et d'ailleurs, le troisième album parlera des inondations vraiment de façon réaliste. Quoi.
Oui.
J'avais envie de plus en reparler.
Reportage plutôt.
Non, enfin, un huis clos avec mes grands-parents. Ce sont mes grands-parents, vraiment le physique et prénom. Et c'est leur fille qui va les voir et qui reste bloquée. Mais c'est notre histoire. Mais l'eau est très importante aussi pour moi, je pense, pour ça.
Mmh. Il y a plein d'évocations dans la bande dessinée. On pense évidemment aux réfugiés,
bien sûr,
en Méditerranée. Il y a le continent de plastique qui est évoqué. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on effleure, vers lesquelles accoste ou pas. Comme
parce
ça,
qu'on n'en parle jamais, en fait, de ce truc-là. C'est fou.
Si, on en parle.
Maintenant, plus. Parce que c'est devenu un truc aussi pour vendre de l'écologie, etc. Mmh. Mais... Ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'il y a un truc comme ça, avec des gens vivent, ils s'y rendent et chopent du plastique et puis ils repartent. Mm. Et en fait, je voulais en parler sans être, encore une fois, dans l'excès, dans la dénonciation. Mais je voulais aussi une lecture à un double sens, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Et en dédicace, je trouve des parents qui me trouvaient avec leurs enfants qui ont parfois 8 ans, ce qui je trouve un peu jeune pour cet album, mais qui m'ont dit, moi j'ai adoré, j'ai pas compris le passage dans le bateau, tant mieux. Et le père me dit, moi j'ai compris, et c'est marrant de voir ce que les enfants retiennent et choisissent de retenir, parce qu'ils sont pas aussi bêtes qu'ils en ont l'air, pas du tout même, ils sont souvent très très futés. Et voilà, donc c'est un album qui est vraiment un double sens, et ça j'ai bien aimé par rapport à Vague de Froid, qui est vraiment réservé à un public, les gens qui ont des proches ou pas, mais je veux dire des adultes, quoi. Ici c'est ado, pré-ado, adulte, donc je visais ça, plutôt un conte, une espèce de fable sur l'eau, quoi.
D'accord. Et tu as éclaté donc dans cette fable, son conte, ta sœur, donc en trois morceaux.
C'est ça.
Mais à chacune de ces personnes, de ces personnages, manque un morceau, une partie.
Oui, c'est bien dit. Hein? C'est très bien dit. Parce que les gens disent souvent que c'est un handicap, mais c'est vraiment ça, manquer un morceau de soi. Ou...
Et tu... là, c'est une représentation graphique de ta sœur, d'une certaine manière, que tu as.
Oui, aussi.
Des manques de ta sœur.
C'est plutôt le fait. Ça a illustré le fait qu'on a tous des casseroles quand on se casse de je sais pas. C'est horrible. On a des trucs à traîner, on a des angoisses. Et je voulais montrer ça. De façon évidente, sans... parce que je déteste les voix off, hein. Vous n'aurez jamais de voix off dans mes bandes dessinées, c'est horrible, je n'aime pas ça. Et j'aime pas quand il y a trop de texte, et du coup j'essaie de tout imager, de tout rendre métaphorique pour que ça soit évident en fait, le plus possible. Je sais pas si je le fais bien, c'est à vous de me le dire, mais en tout cas moi c'est ce qui me plaît, c'est de pouvoir l'illustrer plutôt que de l'écrire.
C'est la règle d'Hergé.
Ouais.
Faut montrer.
Ben, c'est de la bande dessinée, c'est pas de la bande écrite, donc il faut quand même que ce soit... Enfin, il y a les deux, mais le texte aussi.
Ça se négocie.
Oui, ça se négocie bien sûr, mais je prends le cas de Manuel Fior ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de textes et ça va très bien. Ouais. Hyper Icon était magnifique, mais voilà. Moi, je veux privilégier le dessin parce que j'écris tout ça sur texte, donc j'ai pas envie de le réécrire encore une fois en voix off. Puis, en plus, ça gâche parfois des compositions, le petit texte au-dessus, là, j'aime pas du tout ça. Ouais. Donc, ici, c'était les handicaps représentaient chaque fois un. Une crainte ou un poids qu'on traîne. Léonie a un bras en moins, donc aussi ça crée des problèmes sur l'océan, donc ça crée une trame scénaristique, puisque quand on a un bras en moins, on ne sait plus ramer. Balthazar est muet, donc il communique avec un harmonica, et, parce que j'adore la musique, j'écoute tout le temps la musique, et mon père adorait Bruce Springsteen, The River, etc. Donc j'ai voulu mettre un petit hommage à mon père, parce qu'il avait ramassé dans le premier album, le pauvre. Et maintenant, Agathe, parce qu'elle a un handicap un peu plus sociale, comme ma sœur qui est prude de décoffrage, parfois un peu trop honnête avec les gens, et donc j'avais envie que elle ait vraiment ce morceau en moins ou en plus ou en trop, je ne sais pas comment dire ça, de ma sœur quoi. Donc ces trois là forment un tout qui lui ressemble.
D'accord. C'est bien vu. Donc tu t'inspires aussi de, tu parles de Springsteen. T'as travaillé en musique
Toujours.
Est-ce que tu travailles comment? Tu mets en boucle un morceau? C'est ce que je fais moi. Je mets un morceau en boucle jusqu'à ce que je l'épuise pour rester dans une émotion constante.
Oui.
Et même pas un album d'un artiste que j'aime bien, si tu veux, mais où il y aurait des up and down.
Oui, je vois.
Mais je veux rester un peu comme une auto-hypnose un peu.
Ouais, c'est ça, un bruit de fond.
Une petite transe un peu.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Mais là, tu fais alors, tu passes de Springsteen, tu restes sur Springsteen ou tu passes sur
non. Springsteen, je le mettais pour toutes les cases où il y a de la musique dessinée quand Balthazar joue de l'harmonica ou Léonie joue de l'harmonica et m'ont montré qu'elle en joue correctement. Il fallait dessiner la musique, ça me venait surtout de l'auteur Michael Ross qui a fait Ludwig et Beethoven. Et il dessine la musique comme ça, et j'avais trouvé ça sublime, donc je me suis dit je vais faire pareil, dans le même genre. Mais non, quand je dessine, je mets beaucoup de musique où c'est du son. Pas des trucs un peu bizarres, attention, mais ça peut être de l'électro ou de la house, quoi que ce soit, mais pas un truc trop agressif, vraiment un truc d'ambiance. Ça peut être Moby aussi, que j'aimais bien, l'album Play, que j'adorais, que je mettais en boucle, parce que c'est souvent la même émotion et qu'il n'y a pas beaucoup de variantes, il y a la sécurité en fait.
Mm-hmm. C'est ça.
Mais j'écoute beaucoup de morceaux en boucle quand ils sont vraiment très bons. Je sais pas moi, Dire Straits ou Mark Knopfler, j'écoutais énormément en boucle parce que c'est toujours la même chose en fait, c'est le même rythme et le même
c'est
truc.
Ça,
Et ces derniers albums sont un peu mous, donc ça aidait pour les phases plus lentes. Mais par contre, je vais pas mettre des Jeff Buckley quand il faut pleurer. Non, ça, quand j'écris un truc qui est vraiment très émouvant, j'aime bien justement mettre un truc, une musique qui a rien à voir.
Mm-hmm.
Sinon, je pleure quoi. Je pleure très fort et j'ai pas envie de ça parce que le tablette graphique quand il y a de l'eau dessus c'est pas très gai.
Non,
voilà, j'ai pas envie.
C'est comme là.
C'est comme le papier.
C'est comme ici. Oui, tu travailles à la tablette. Hein.
Oui, je travaille au numérique.
Les deux bandes dessinées sont faites comme ça.
Oui, il y a juste le pré-brouillon donc, qui est fait sur papier pour vraiment les séquences.
Oui.
Et c'est moins fatigant, on va plus vite, on a moins le format en tête, etc. L'écran. Mais une fois que je passe au découpage définitif, j'ai pas de découpage entre les deux, c'est vraiment pré-brouillon et puis crayonné d'un coup.
Ouais.
J'aime bien voir cette spontanéité. Puis l'ancrage vient juste régler les petits problèmes. Et donc là, c'est numérique. Ouais.
Mmh.
Avec une couleur la plus texturée possible pour éviter le 2D du numérique un peu plat qu'on peut voir dans des BD parfois.
C'est donc tablette, c'est pas... Donc c'est
Oui, c'est pas du tout une Cintiq. Je dessine vraiment en regardant mon écran, pas ma main. Quoi. tablette graphique branchée à l'ordinateur.
D'accord.
C'est ça.
D'accord.
Ouais, j'aime bien ça. C'est parce que la main me gêne pas en fait. Donc je vois la composition de l'image et je peux travailler en fonction de ça et ne pas être gêné par un membre en trop cette fois-ci.
Ok. Ouais, c'est marrant parce qu'on entend souvent maintenant qu'on peut faire sur tablette.
Ouais.
Celle-là quoi. On entend pas mal de dessinateurs qui aiment justement retrouver le geste qu'on a quand on dessine sur papier.
Ouais.
Effectivement, il y a une dissociation quand on est.
Bien sûr. C'est pas du tout le même frottement.
Non. Quand on regarde pas sa main.
J'adore. J'ai acheté un iPad pour ça aussi, pour pouvoir dessiner dans le train, quoi que ce soit. Mais quand c'est pour un travail pro vraiment rendu définitif, je fais pas. Déjà parce que ça m'évite des tendinites horribles. La tablette, il y a un frottement qui est vraiment. Dès qu'on a un truc protecteur ou quoi sur l'écran, c'est après un quart d'heure, moi j'ai mal au pouce, quoi.
D'accord.
En dessinant. Que j'ai pas avec la tablette. Et donc ça, c'était plutôt par confort et parce que j'avais ça sur moi quand j'ai commencé la BD, ça m'a économisé du papier qui coûte extrêmement cher maintenant, qui ne sont pas pris en compte par l'éditeur ni remboursés. Je prends le cas d'une autrice qui a signé chez Glénat, qui s'appelle Sixtine Dano, qui dessine super bien et qui fait des planches vraiment traditionnelles. Ben, ça lui coûte 1200 balles, c'est son papier, quoi, juste pour la faire, qui n'est pas du tout remboursé par l'éditeur. Tandis qu'une tablette, ben, c'est 200 balles, et un ordi, c'est 800, et ça tient 7 ans. Donc on a 1000 euros pour 7 ans ou 1200 pour un an, il faut choisir. Ben, c'est vrai, mais après il y a le plaisir de dessiner sur papier, hein, j'aimerais bien le faire un jour mais j'ai pas l'argent simplement,
oui,
pour l'instant j'ai pas envie de mettre de
l'argent
là-dedans.
Pour l'instant c'est l'économie qui décide.
Oui, il faut.
Et même du rythme de travail.
Oui, du rythme évidemment. Ouais. Après il y a beaucoup d'accidents sur ordinateur aussi. Hein.
Oui.
Encore ce matin j'ai fait 2 planches, j'enregistre, ça ne s'enregistre pas, ben, j'ai perdu 2 planches, c'est 6 heures de travail, merci, au revoir. C'est pénible, mais ça arrive.
Ouais.
Ça il faut faire avec, quoi. C'est comme le café sur les feuilles, le café renversé sur les feuilles, c'est la même chose.
Ça arrive aussi.
Ouais. Ça arrive aussi.
Alors, on a parlé un peu de musique. Maintenant, on va peut-être passer au cinéma, ton inspiration. J'ai lu que tu parlais de Mad Max sur l'eau pour le
Waterworld.
Le Grand Large, Waterworld, voilà.
Que je n'ai pas vu d'ailleurs, je tiens à
après, dire. On évoquera la bande dessinée, tes influences en bande dessinée, si tu veux bien.
Je t'en prie.
Mais bon, je trouve qu'on a effectivement un découpage extrêmement fluide dans tous les albums et qui est... j'aime pas trop dire ça parce que j'aime pas affilier la bande dessinée au cinéma, mais quand même, il y a un choix, il y a des cadrages qui sont super.
C'est gentil.
Et oui, il y a un découpage qui ressemble quand même à une dynamique, en tout cas, d'animé ou de ciné.
Oui, clairement.
Et c'est ton inspiration,
ça? Oui, le cinéma. Je pense que j'aurais aimé plus faire du cinéma que la bande dessinée. Parce que justement, on peut associer le son à l'image.
Il n'y a pas à dessiner.
Oui, il n'y a pas à dessiner de 1. non, mais il n'y a pas autant à dessiner. C'est pour ça que je voulais faire du storyboard quand je cherchais du travail, pour avoir un pied dans le cinéma, en tout cas d'animation, que je trouve la forme d'art la plus pure. C'est le cinéma d'animation, je trouve ça magnifique. Et je pense que je m'étais refait quelques Ghibli quand même avant de faire l'album, ça se voit. Parce que je lis pas beaucoup du tout de manga, moi j'en ai peut-être 3 et c'est des classiques et j'en ai peut-être 10 tomes maximum. Donc les One Piece, les Dragon Ball, voilà. Mais je les lis jamais, c'est juste pour les avoir, quoi.
One Piece, on a aussi une espèce de gros bateau soudain.
Oui, il y a aussi un gros bateau, il a plus de gueule celui de One Piece quand même. Il est plus sympa. Non, ici j'ai vraiment envie de faire du cinéma parce qu'on peut associer le son à l'image. Et j'espère dans la BD que quand on lit les pages, on a le son. Pour moi, c'est ça qui fait aussi une bonne BD ou un bon roman graphique, pour être présomptueux.
C'est pareil.
C'est vraiment, c'est pareil. C'est quand on lit, qu'on a le timbre de voix du personnage, quand on entend sa voix, ses intonations, ses expressions, quand on entend le bruit du vent sur la mer, etc.
Comment tu cours après ça alors?
En ne mettant pas du tout d'onomatopée. Ça fait l'inverse de ce que c'est censé faire, je trouve, ce truc-là. Ça met un bruit qui. Un brof, personne ne fait le bruit brof.
Oui.
Non. Ou un poc, non plus, en fait. Il y a les bonks, ça n'existe pas non plus. Donc, les sons, c'est comme le goût et les goûts musicaux. C'est un truc qui est propre à nous, je pense.
Et c'est difficile d'en mettre un.
Et c'est difficile d'en mettre un.
Parce que ça peut exclure.
Oui, puis ça met sur une voix qui est obligatoire. C'est ça que tu dois entendre et rien d'autre. Alors que c'est faux. Hein, le bruit de la neige est différent pour tout le monde. Les gens vont l'associer au craquement des semelles, d'autres aux chutes de neige de sapin sur le sol, ou d'avalanche. Il y a tellement de sons différents, alors j'en mets très peu. Il y en a plus dans celui-là parce que c'est des sons classiques. Je voulais un côté un peu cartoon dans l'album, d'aventure, donc il fallait en mettre, et mon éditeur m'a un peu poussé à ça. Mais à la base, les bruits de moteur, c'était des phylactères. Parce qu'un moteur, pour moi, ça crie. Ça fait pas du bruit, ça crie un moteur, c'est horrible. Donc je voulais vraiment faire un phylactère avec une queue de bulle, vraiment, qui prend de la place sur la page et qui noie vraiment l'image. Mais ils ont préféré une onomatopée vraiment plus discrète. Je sais pas si c'était une bonne idée, en vrai je regrette un peu, mais c'est pas grave. Il faut faire des concessions dans la BD aussi.
Il faut essayer.
Donc j'aurais voulu faire du cinéma, vraiment. D'ailleurs, la frontière se floute de plus en plus maintenant entre la BD et le cinéma. Je pense que tous ceux de ma génération, mes amis qui font de la bande dessinée me disent c'est parce que je sais pas faire du ciné que je fais de la BD. C'est le moyen le plus facile et le moins coûteux d'en faire.
Tu sais, je pense que même historiquement, Maurice, Franquin, tous ces gens-là ont voulu faire du dessin animé, ont même touché au dessin animé, et ils ont importé Disney sur papier un peu. Et beaucoup maintenant des jeunes de ta génération ou même plus jeunes encore sont nourris d'animés japonais, donc on voit ça, il met très fort, très vite, mais il y a cette filiation effectivement assez régulière. Et je pense que c'est alors ça, c'est un grand débat sur le son dans la bande dessinée, c'est un peu infini, mais effectivement il faut appuyer ses forces, et la force de la BD, c'est le silence dans lequel on la lit et la projection qu'on met, c'est aussi ce qu'a pu utiliser et employer Hergé en faisant les deux points des yeux, en disant le Tintin, c'est un personnage dans lequel on plonge au niveau de l'expressivité, tu vois.
Bien sûr.
Après, bon, c'est chacun. Toute la gamme se déploie après autour. Et il peut se trouver à l'inverse. Donc moi, je serais plutôt dans ma pratique comme ça aussi. J'ai une appréhension, et pourtant j'en ai lu énormément des bandes dessinées avec des onomatopées, et c'est aussi une manière de dynamiser le dessin, la case.
Oui, parce que l'homme,
parce que
se
tu
dessine,
peux faire des grands sploofs, des grands, des traînées, enfin vraiment.
Quand c'est bien fait, ça marche super bien. Attention, moi je dis juste que j'en mets pas parce que c'est quelque chose que j'aime pas trop, mais dans, justement, notamment avec Gaston, etc., c'est indispensable. Parce que ça va avec le dessin. D'ailleurs, leurs onomatopées sont extrêmement bien dessinées. C'est dur de bien
très
faire.
Dur,
c'est très dur de les placer. C'est aussi dur que de placer une bonne pluie
et
sur
les rendre expressifs.
Tout ce qui va par-dessus le dessin ou qui le lit, il faut prendre en considération comme ça dans la composition de l'image. C'est horrible. Mais c'est aussi peut-être parfait néantiste, je sais pas. Mais en tout cas, Vague de froid, j'en ai pas mis.
Non.
Je pense qu'il n'y en a pas une seule.
Mais quand tu as une nourriture de cinéma, tu n'as pas de. L'image est composée, tu as le cadre de l'image. C'est juste le travail de composition de cette image-là donc, qui nourrit aussi ce. Cette idée que la bulle peut être parasite.
Oui, bien sûr. Ça, c'est vrai aussi. Quand on peut ne pas mettre encore tout à l'heure en dessinant, j'ai enlevé une bulle parce qu'il ne servait à rien. Parce que ça pourrissait un peu la composition. Ça arrive souvent, et je suis partisan d'une bonne histoire et un bon récit. C'est pas un récit auquel on ne peut plus rien ajouter, mais auquel on ne peut plus rien retirer. Et je pense que moins on en met, mieux c'est. Et c'est vraiment... pour moi, c'est obligatoire d'avoir au moins un passage où il n'y a pas de décor dans une BD, où le fond est blanc, que ce soit l'atmosphère qui prenne le pas, et les personnages, et pas ça, et pas le décor, quoi.
On attend.
On attend. Plaisir.
Le BD.
Les deux. Ça va ?
Allez. Oui, ça va.
Ça va. On est large.
On est bon. Parle-nous un petit peu, s'il te plaît, de tes influences cinéma, alors, plus précisément, les réalisateurs ou...
Alors, moi, je connais pas tous les noms des réalisateurs, mais plutôt les acteurs. Je suis souvent un acteur, parce que j'aime bien voir ce qu'il fait différemment. J'avais, par exemple, comme film préféré, j'ai toujours d'ailleurs, Manchester by the Sea, qui a été fait avec Casey Affleck et une certaine Michelle, je sais plus comment elle s'appelle. Qui a eu l'Oscar, l'ex-femme de Heath Ledger, là, je sais pas si tu vois, qui a fait le Joker dans Batman.
Pas du tout.
Mais bref, c'est un film qui se passe vraiment dans une petite ville avec de l'eau. By the Sea, évidemment, c'est près de l'eau, et qui raconte un drame. En fait, ça raconte rien. Mais c'est sublime, et il y a un drame dedans. Et ça, en fait, ça cochait toutes les cages de ce que moi j'aime bien dans un film. C'est une petite situation, un petit truc isolé, un drame. Et après, il n'y a plus rien, c'est juste le deuil du truc, quoi. On le digère. Et j'ai intégré ça dans mes bandes dessinées. Mmh. Je voulais un début chaque fois un peu plus fort. En tout cas, dans Le Grand Large, c'était comme ça que ça se passe. Vague de froid, c'est plus différent.
Oui, ça démarre, on rentre comme dans
la c'est ça. Et puis après, on digère ce qui s'est passé.
Il n'y a pas d'exposition.
Oui, j'aimais bien ce truc-là. D'accord. Et y a plein de films. Il y a La Route de avec Viggo Mortensen, du roman encore oui. McCarthy, qui maintenant a été adapté par Manu Larsenet. Oui. D'ailleurs, magnifiquement bien adapté. Que ce soit de la SF aussi, avec Afterlife, avec... je sais plus comment il s'appelle, Pattinson, oui. Un film dans l'espace. J'aime beaucoup l'espace. Je regarde un peu tout.
Tu m'as envoyé tes frères et sœurs dans l'espace?
Non, moi, du coup, ce serait cruel de les envoyer après tout ce qu'ils m'ont fait vivre, ces braves gens. Mais voilà, le cinéma a une grosse place, notamment ceux où parfois c'est juste de la bêtise, comme L'Exorciste ou quoi que ce soit. C'est de la bêtise, mais que j'adore, moi. Parce que ça a beaucoup plus d'émotion que n'importe quel autre film. Un film d'horreur, moi, je trouve ça incroyable. Et l'horreur en BD m'intéresse beaucoup, mais c'est très dur. Je crois que c'est le genre le plus compliqué à mettre en image. Et donc, c'est chaque fois des défis. Et j'aime bien ça, l'idée de pouvoir adapter un jour un truc au cinéma que j'ai fait
si
ou pas.
Imaginons qu'on te propose une adaptation.
Oui, ça a été le cas. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance
de
pour ça.
De celle-là?
Oui, de celle-ci. Ça n'a jamais fait, malheureusement.
Tu aurais envie de réaliser?
Non, j'ai pas assez près. Non, je saurais pas. Je suis trop nul. Mais j'aurais voulu avoir un œil dessus. Ouais. Donc, je laisse aux gens le stress de l'adaptation, de la production, mais je voudrais pouvoir avoir au moins une journée sur le tournage pour aller voir comment ça se passe et glaner un peu des informations comme ça.
Et après, dans 2 ans.
Et plus tard, peut-être. Mais mon premier, je pense pas que je voudrais avoir un pied dans la production. Ce serait débile. J'ai déjà fait moi mon film. Il est sur papier. Mais j'aime bien le mystère du cinéma, j'ai envie de l'entretenir aussi.
C'est une prise de vue réelle, ce serait l'idée ?
L'idée, c'était une adaptation en série animée, pas du tout japonaise, mais pour pré-ado, en 5-6 épisodes. J'avais été approché par une productrice, ça s'est plus jamais fait, c'est dommage. Mais voilà, ça a été pitché au shoot de book d'Angoulême. Donc les 10 romans à fort potentiel d'adaptation étaient dedans, donc il a une belle visibilité grâce à ça. Et c'est, je pense que c'est en tout c'est 40 par an de ce truc-là, de shoot de book. Il y en a un à Los Angeles, un à Shanghai, un à New York et un à Angoulême, quoi. Donc c'est très peu. Donc j'étais hyper fier. Mais voilà, ça a pas. C'est une série qui coûterait énormément. Et puis il y a déjà l'Odyssée de Pi, qui est la même chose en fait, vu que ça se passe entièrement sur l'eau d'une barque avec un tigre et un mec. Donc c'était encore plus intéressant, j'imagine. Mais donc je pense que les gens ont pas forcément envie de mettre des millions dans une piscine et des VFX derrière. Et c'est dommage. Mais voilà.
Là, on rejoint l'économie, les soucis économiques.
Ouais.
Bon, ton rythme, là, que j'ai qualifié un peu de cinématographique, en tout cas, il te vient spontanément quand tu fais ton découpage ?
Ouais.
Refais beaucoup ?
Je fais environ toutes les 5 pages, il y a peut-être 3 cases qui changent. Mais je ne les ajoute pas, elles changent. J'en enlève une, je la recommence. C'est tout. J'aime bien le rythme de 6 cases à peut-être 8 max par page, parce que c'est assez pour écrire de gros pavés quand il faut, et c'est assez aussi pour ne pas en mettre sans que ça gêne.
Ouais.
Et donc j'aime bien jouer avec cette liberté de me dire j'en mets ou j'en mets pas, ou je change, toutes les séquences commencent à gauche, les scènes importantes et finissent à droite, comme ça je peux les interférer. Mais globalement, le rythme du découpage, simplement je me relis énormément quand je fais mon pré-brouillon pour que ce soit le plus fluide possible, mais j'adore la décomposition de mouvements et les choses qui sont, se passent en temps réel. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ellipses dans Vague de froid, de chapitres. Ça m'aidait à séquencer les scènes et à construire une image comme ça. Ici, vu qu'il n'y a pas de chapitre, c'était plutôt les nuits et les jours qui séquencent le récit. Mais c'est très dur de mettre des ellipses. Moi je ne les mets jamais, par exemple, au milieu, quoi. Je ne mettrais pas une ellipse en haut à gauche de la page de droite.
C'est ça.
Ça bizarre. J'en ai peut-être fait sans le vouloir, mais c'est pas un truc auquel je pense. Donc le rythme s'impose comme ça, avec.
Donc c'est l'unité des pages, l'unité de la page.
Oui, c'est ça.
Prendre
des doubles
pages même.
Ouais. C'est ça. Quand quelqu'un qui sert une tasse de café, je vais pas mettre juste, il ouvre l'armoire puis il a son café la case d'après. Je vais vraiment montrer qu'il ouvre, qu'il prend sa cuillère, qu'il fait son petit truc, qu'il moule son grain et qu'il sert sa tasse. Vraiment, je vais abuser là-dessus, et pendant c'est l'occasion aussi de mettre une discussion qui est rendue intéressante par le dessin. Enfin, j'espère.
Ouais.
Et où la couleur, évidemment, qui va avec, pour pouvoir parler de tout en fait, parce que un mec qui est sur sa chaise, qui parle, qui fume sa cigarette, ça peut être super intéressant en fait.
Comme dit un copain rabatté, je vais pas raconter grand chose, donc il me faut beaucoup de pages.
Exactement, exactement, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. La vague de froid est censé avoir 40 pages en moins, hein. C'est parce qu'il y a énormément de moments muets, donc il a pris énormément de temps, mais en soi, c'est peut-être,
parce qu'on
c'est
doit
peut-être 4 jours de voyage. Quoi. Ouais, c'est ça. Et le grand large, ça se passe en 3 jours hein, quand on le lit. Ouais. 3 jours de 150 pages, ça va.
Oui,
c'est lent, quoi. Et j'espère qu'on s'ennuie pas, c'était le but principal de l'histoire.
Ce qui est intéressant, c'est de travailler la quantité d'informations justement, qu'on a par page ou par double page.
Ouais.
Et le temps de lecture en rapport avec le temps de l'action qui se déroule, ça, c'est un jeu que la bande dessinée permet vraiment, vraiment, qui est très intéressant. Et particulier à la bande dessinée.
Oui, c'est vrai. Mais pour une idée de la jauge comme ça, d'adaptation par rapport au scénario et ensuite la BD, Vague de froid, c'était 35 pages écrites, 250 dessinées. Ici, c'est 15 pages écrites, 250 dessinées. Et il se passe beaucoup plus de choses là-dedans que dans le deuxième. Donc ça n'a rien à voir, c'est ça qui est compliqué aussi. Mmh. C'est d'adapter son propre scénario en se disant, là le prochain il y en a 12.
Alors là, 400 c'était dur. Pages.
Non, 170, ça va. J'ai eu de la chance, je me suis dit je ne veux plus faire des gros pavés pour l'instant, parce que c'est un sujet très compliqué, il est beaucoup plus personnel, etc. Mais, donc ça varie, donc c'est ça qui est compliqué, et c'est pour ça que le pré-brouillon je le fais au crayon, parce que quand je jette des pages, je suis moins déçu que si je l'avais faite sur ordinateur et que j'avais envie de la garder. Mmh. Là, c'est des petites pages où des cases sont à peine plus grandes que mon pouce. Donc, je peux m'en débarrasser beaucoup plus vite. Je n'ai pas un attrait matériel à l'objet.
D'accord. Tu nous parles un peu de tes lectures de bande dessinée, ton auteur favori.
JP. Toujours. JP, oui, toujours.
Ouais.
C'est pour moi le maître incontesté.
JP.
JP, donc J-I-P-I, auteur italien qui a fait notamment Note pour une histoire de Note d'une histoire de guerre, La Terre des Fils, qui était magnifique, fait au bic, noir, et qui a fait une très belle, sa dernière, là, un moment extraordinaire sous faux applaudissements. Le titre est très long, mais c'était très beau aussi. Et en fait, il parle de tout. Ouais. Et il a une vie extrêmement froide et crue, cet homme-là, il a une vie compliquée. Et il en parle très bien. Il est très, très honnête comme ça. Dans sa bande dessinée.
C'est
moi, j'aime beaucoup.
Saisissant.
Ouais. C'est d'une brutalité qui est en fait ultra humaine. Et moi, j'aime beaucoup ça dans la bande dessinée, le fait
sombre,
de pas pouvoir.
Mais c'est sombre, oui, c'est assez sombre, très noir, même. On peut dire noir.
Ouais, c'est même plus que sombre.
Mais effectivement, c'est fataliste. Une franchise terrible.
Et encore, parfois, il y a de l'imaginaire dedans, il y a des trucs super drôles. Il est très drôle aussi dans ses bandes dessinées. L'humour italienne un peu. Un peu parfois cassante comme ça, proche de l'humour anglais en fait, enfin, je trouve parfois un peu cynique, enfin, même très cynique dans son cas, mais surtout il touche à tout, il peut faire une histoire sur un mec qui va faire la grosse commission dans un champ et c'est intéressant quoi, c'est le cas hein, dans l'histoire courte qu'il a faite là, En descendant du fleuve et autre histoire, et une très belle aussi c'est Vois comme ton ombre s'allonge, où il a un parallèle entre la Première Guerre mondiale et la vie actuelle. C'était super beau aussi. Et surtout, il a une aquarelle qui est phénoménale. Et quand on voit comment il l'a fait, ça a l'air d'être si simple. Et puis quand on essaye, c'est tellement pas si simple.
C'est très compliqué.
J'ai horreur de ça, de sentiment de désillusion totale. On se dit, ah ok, c'est le résultat de 20 ans de maîtrise, quoi, voire plus du coup. Et lui, il touche au cinéma. Il est responsable d'un club de foot pour jeunes réfugiés en Italie. Enfin, il fait plein de trucs. Et ça aussi, c'est cool, parce que ça se voit dans cette bande dessinée. Il n'en a rien à foutre du dessin, en fait. Il s'amuse juste à créer des ambiances, et c'est ça qui compte. Et c'est pour ça que l'atelier, je me réjouis de le faire juste après. Le dessin, ce n'est pas forcément tout construit, tout beau, tout droit. Il faut, comme dans la vie, il y a des cassures, il y a des asymétries, il y a des fragments. Et lui, il a parfaitement maîtrisé ça, sans être écœurant. Et surtout, il écrit merveilleusement bien aussi. Il a énormément de textes. Mais ça me dérange pas du tout.
Très
ce qui est très paradoxal par rapport à ce que je viens de dire avant, où moi je déteste le texte dans la BD. Mais lui, en plus, jamais il parle de lui directement. Il est très, très discret, j'adore. Enfin, voilà, je pourrais lui me mettre à genoux devant lui. Mais il y en a d'autres, hein. Merwan, que j'adore. Chérie. Bastien Vivès, avant qu'il fasse n'importe quoi, évidemment. Mais Bastien Vivès, quand même, j'aimais bien son trait.
Jérémy Moreau aussi.
J'adorais.
Jérémy Moreau.
Oui, Jérémy Moreau, j'adore aussi. Mais lui, il a tout pour lui, ce type-là. Il est magnifique, il dessine trop bien. Il vit dans une montagne. Je veux sa vie, je ne l'aurai jamais. Mais lui, il a fait de l'animation et ça se voit aussi. Enfin, il y a énormément de BD. Ce que faisait Sans la ville aussi avec Vivès dans Last Man, c'était très bien aussi. Récemment, j'ai lu Nicolas Peugeon qui a fait Hound Dog, une version comics comme ça. Moi, je déteste les comics, mais là, c'est un comics vraiment européen. C'est super drôle. c'est très bien. Cyril Pomès, que j'adore aussi. David Prudhomme. Hein. Je ne connais pas.
Du tout.
Il est très accessible. Hein. Il est souvent plus proche qu'on ne le pense. Mais...
Bon, alors voilà, c'est malin, tiens. Il y a des plus vieux ?
Oui, oui, bah, Franquin, moi j'adore. Hergé, je déteste, je ne saurais pas.
Qui ?
Hergé, je n'aime pas du tout, je n'arrive pas. Je reconnais le génie, voilà, le gars qui était vraiment en avance sur son temps, mais je n'aime pas du tout. Les héros comme ça, qui sont tout lisses, tout propres, tout parfaits, et son regard tout noir, justement, bah, ça me sort du truc, au lieu de me plonger dedans. La seule partie de Tintin que j'aime bien, c'est Milou, quoi. Et c'est très réducteur, mais comme ancien, je sais pas, il y en a pas vraiment d'autres. Akira aussi, le mec qui a fait Akira, je sais plus son nom, les noms japonais,
Tomo,
moi je retiens pas.
Tomo.
Tomo, voilà, qui est, ouais. Akira, qui est magnifique. Il y a de tout. Hein.
Ouais, c'est ce qu'il faut. Et bon, on va devoir bientôt conclure, mais j'ai encore. Ah, j'aimerais bien te poser une
petite
question ou deux.
Vas-y.
Si on peut. Donc, tu as fait en 2 ans 600 pages à peu près, ou je sais pas, 500, ouais. Je sais plus.
Ouais.
Ton premier livre, Vague de Froid, parle du fait que tu fais des croquis. Tu vas avec ton frère faire des croquis. Donc, le dessin était un plaisir aussi, une nourriture, enfin un truc.
Ouais.
Ou alors c'est pour travailler, le travailler en tout cas. Bon, mais voilà, est-ce que tu as encore le temps de faire, est-ce que tu as encore l'envie de faire des croquis, de faire du dessin à côté ? Des bandes dessinées.
Oui, oui.
Parce qu'avec ce rythme effréné, ça me paraît.
J'ai l'envie, le temps, je ne l'ai plus trop. Ouais. On essaie de le trouver avec des amis maintenant, de se réunir une fois par mois et de partir dans les Fagnes en Belgique ou en Ardennes dessiner la nature, parce que c'est le seul médium qui me sort du numérique.
Mmh.
Et bizarrement, je ne travaille pas du tout comme sur le numérique, sur papier. Non. Je prends des pinceaux que je trempe dans de la glu, faire n'importe quoi. Mais j'aime bien ce côté. Et là, ça ressemble, je ressemble très fort à mon grand-père quand je fais ça.
Ça.
Et
ouais.
C'est ce que j'aime, ça me rapproche de lui.
Mmh.
Parce qu'il est tout doucement en train de s'éloigner, mais j'ai besoin de ça. Et c'est un truc que j'ai fait beaucoup quand j'étais à l'académie.
Mmh.
Je dessinais énormément toutes les photos que j'avais faites en Norvège, où je partais à Liège, il y a des beaux endroits où pour dessiner, etc. Mais moi, c'est beaucoup la nature, hein, la perspective, on n'en parle pas. Je déteste ça, déjà, je ne sais pas la faire. Et du coup, c'est vraiment un médium qui, moi, me sauve de l'ennui du numérique et surtout qui me détruit les yeux. Je ne vois plus rien sans lunettes.
Ouais.
Là, je ne sais pas qui tu es. As-tu des cheveux ou pas ? Je ne sais pas.
Je suis Hergé.
Tu es Hergé ? Je m'en vais. Non, mais c'est vraiment... Ça me sauve. Ça me fait une bouffée d'air frais, littéralement. Puis ça me force à sortir, parce que c'est un métier où on est enfermé, quand il fait beau, quand il pleut.
Mmh.
Et surtout, qui est très, très solitaire. Enfin, tu le sais encore mieux que moi. Moi, je n'ai pas encore besoin de cette solitude. Mmh. Je pense en avoir besoin, mais là, non. J'ai besoin vraiment...
Là, t'es de l'atelier. Non, t'es encore besoin de l'atelier.
Ah ouais, j'ai besoin d'un espace de travail. Mmh. Sinon, je me fais bouffer par mes chats ou je sais pas, mais... Je vais mourir en fait sur ma chaise. Je vais me
par la vaisselle, par plein de trucs.
Donc ça, je la fais bien assez, c'est bon comme ça.
À l'atelier.
À l'atelier aussi, oui, tracasse. J'aime bien faire les tâches ménagères, ça me sort aussi de la BD. Les pauses, je fais quelque chose, je reste pas sans rien faire, j'ai besoin de m'occuper.
Mmh.
Le soir, je fais rien, mais la journée de travail, elle commence, elle termine à 18h.
T'as vraiment des horaires de
vraiment.
Fixe.
Après, c'est dur de ne pas reprendre son travail à la maison,
surtout
quand on a un disque dur externe, mais voilà, je le fais parfois.
D'accord.
J'aime bien.
Quand t'es en retard.
Si oui, ça arrive souvent.
Comme nous, là, maintenant.
Allez, on arrête.
Ça va.
Ça va ? Ouais. Bon, tu nous parles un peu du futur, de la prochaine.
Oui, avec plaisir.
Est-ce qu'il y a des dates ? Est-ce qu'il y a une idée ? Oui, une idée, tu nous l'as dit déjà.
Oui, oui, oui.
160 pages, 2.
C'est 170, 160,
170,
ce sera entre les deux,
pardon.
Je sais pas encore. En vrai, c'est une bonne réflexion parce que je sais pas encore, j'ai pas encore la fin que je veux, mais ça parle d'une dame qui va voir ses parents un week-end et qui a eu une dispute avec son compagnon et ils habitent près d'un fleuve qui sort de son lit et qui inonde le quartier. Et donc quand elle veut s'en aller parce que son compagnon lui met la pression par SMS, elle se retrouve bloquée à la maison avec ses grands-parents qui avaient un peu prévu le coup. Donc on comprend qu'elle a une relation toxique et qu'elle a des parents qui ne savent pas grand-chose de ça, mais qui le voient, comme toute personne extérieure à ce genre de situation. Et en gros, ça raconte son sevrage forcé de cette relation, parce qu'elle va rester bloquée 3 jours dans la maison avec l'eau qui monte de plus en plus. Alors elle a comme échappatoire un voisin avec qui elle parle, mais ça raconte du coup l'histoire qu'on a vécue avec mes grands-parents. On a été bloqués pendant quelques jours sans eau ni bouffe, et c'était vraiment un truc... Alors on avait de la bière, donc on était sous tous les soirs, hein, mais ma grand-mère me demandait tous les quarts d'heure s'il pleuvait, c'était incroyable. Ce qui est dans l'album. Alors on l'amenait chaque fois devant l'escalier, parce que ça montait vraiment jusqu'au premier étage, hein, il y avait 1m80 dans la maison, donc on s'est fait réveiller à 2h du matin, et jusqu'à 11h on avait les jambes dans l'eau, jusqu'à ce que je sente plus mes fesses. Donc j'ai dû arrêter à un moment donné. Et là on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va manger? Alors il y a eu des zodiaques qui sont dans cet album-là, pour le coup, parce que je voulais vraiment garder Louis Claude en troisième, donc il n'y a vraiment aucune personne extérieure. Mais voilà, c'est un sujet plus compliqué, femme battue ou pas, mais j'ai pas envie de montrer de scène de violence. Donc il faut que ce soit subtil, il faut que ce soit en temps réel, qu'il n'y ait pas de flashback à la con avec des voix off, etc. J'avais pas envie de ça. Et donc il faut montrer tout ça en douceur et avec respect, parce que c'est quelque chose malheureusement qu'on a connu et on aimerait bien, j'aimerais bien en parler pour non seulement ancrer mes grands-parents dans le temps et aussi me débarrasser de ça. Parce qu'heureusement, c'est derrière nous maintenant. Mais voilà, donc ce sera vraiment la maison, les pièces, la couleur, nos objets, l'atelier de mon grand-père, le deuxième du coup, pas le beau dans le grenier, mais le deuxième quand même, ses œuvres. Donc j'ai vraiment mis beaucoup de moi là-dedans et c'est très compliqué. Raison pour laquelle j'avance absolument pas dans cet album. Ouais. Il me faut du temps.
Il y a la perspective là.
Oui, il y a la perspective à crever du coup. Ouais. Et puis il y a 80 planches en moins, mais je le ferai dans le même laps de temps parce que c'est très dur. Je vais m'arrêter souvent pour faire une pause parce qu'ils ont vieilli entre temps, mes grands-parents. Et donc ils n'ont plus la même tête, le même regard. Ma grand-mère, c'est devenue une vieille dame. Avant, elle avait encore une conscience maintenant, elle a Alzheimer, donc elle est très 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 loin dans la maladie, elle a 89 ans, donc il y a des jours sans, il y a des jours avec, et donc il y a des prémices, elle ressemble très fort à Agathe en fait, dans l'histoire, mais en étant plus humaine, moins caricaturée quoi. Et mon grand-père est quelqu'un de très contemplatif, mais il rentre pas dedans, donc il fallait rester aussi honnête vis-à-vis d'eux. Et ça, c'était le défi.
C'est délicat, hein.
C'est délicat, mais et du coup, ça me rappelle Vague de froid, mais voilà.
Il y a des ponts qui se créent.
Ouais, ouais, ouais.
Des petites notes qu'on retrouve.
C'est ça. Ouais. Et ça clôturera la trilogie de l'eau. Et puis après, je ferai autre chose.
Quels sont tes rêves pour le futur?
Continuer à faire de la BD, hein, à pouvoir en vivre. C'est quand même une joie de se lever, de dessiner pour gagner sa vie, quoi. Même si je préfère écrire, hein, on s'en le rappelle. Mais c'est une joie.
Ouais.
Donc voilà.
Bon, merci Jean.
Merci à toi.
Pour cet entretien.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Alors avant de vous laisser passer à l'atelier pour celles et ceux qui le souhaitent, un petit mot sur le reste de la programmation bande dessinée parce qu'elle est très riche au Centre Pompidou cette année. Alors vous pouvez retrouver derrière moi le reste de la programmation de BD Hors les Cases avec des discussions, des ateliers, des concerts, un tas de choses. L'exposition du 6e étage qui est sublime, vous pouvez retrouver des planches de David d'ailleurs. L'expo de la BPI, Corto Maltese, et puis peut-être certains l'ont déjà eu, certains et certaines, mais je vous en redonne, des petits programmes de toute la manifestation, je te laisse les faire passer. Et enfin, nous organisons un jeudi de la BD comme ce soir par semaine jusqu'à début juillet, donc il y en aura toutes les semaines, tous les jeudis à 19h, donc n'hésitez pas à revenir bien sûr, et je vais passer une petite tablette pour mettre votre mail si vous le souhaitez pour être tenu au courant du reste de la programmation. Et je vous laisse enfin passer à l'atelier. Et merci encore à tous les deux, c'était passionnant.